Gloire à Dieu. Je me réjouis de ce que Dieu parle. Ça veut dire qu'il est vivant. Amen. Et j'aimerais vous emmener ce soir vers un message un petit peu particulier qui nous parle de la résurrection de Jésus. Et nous allons voir que ça fait une différence qu'il soit vivant, qu'il soit ressuscité, que s'il était resté dans le tombeau. Et bien des choses ne se produiraient pas aujourd'hui. Alors ouvrez avec moi la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est mort, est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. » Le 27 février 1991, au plus fort de la guerre du Koweït, est-ce que c'est encore dans vos souvenirs? On appelait tempête du désert. Ruth reçut du Pentagone un triste message qui déclarait que son fils Clayton, soldat de première classe, avait marché sur une mine au Koweït et qu'il était mort. Ruth écrira plus tard, « Je n'arrive pas à m'exprimer le choc et ma peine. C'était plus que ce que je ne pouvais supporter. » Et j'ai pleuré pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je n'ai fait qu'exprimer ma colère, mon deuil. Pendant 3 jours, les gens ont essayé de me consoler, mais en vain. La perte était trop grande. Mais 3 jours après avoir reçu ce message, le téléphone a sonné. La voix à l'autre bout du fil disait « Maman, maman, c'est moi, je suis vivant ». Ruth dira, au début, je n'arrivais pas à le croire, mais j'ai reconnu sa voix, il était réellement vivant. Le message était une erreur. Elle disait, j'ai ri, j'ai pleuré, tout en moi était bouleversé, parce que mon fils que je croyais mort était vraiment vivant. Et elle rajoute, je suis sûr qu'aucun de vous ne peut réaliser ce que je ressentais. Aucun de vous, de nous certainement, sauf... je dirais ceux des évangiles qui ont fait la même expérience. Un jour, ils ont vu leur meilleur ami, leur maître, être cloué sur une croix. Ils ont été les témoins de ses souffrances. Quand à un moment donné, il va crier « j'ai soif !» Et puis ensuite « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ils ont vu quand enfin il a penché la tête et dit « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ils ont vu quand son corps fut descendu de la croix, quand il a été mis dans le tombeau. Voilà que leur espérance, leur rêve, était enseveli dans ce même tombeau avec lui. Leur espérance n'était plus. Pendant 3 jours, ils se sont lamentés jusqu'au dimanche matin où quelques femmes ont pris le chemin du sépulcre se demandant « Mais qui nous roulera la pierre ?» On y va, mais on sait qu'il y a la pierre devant et qui nous roulera la pierre ? Mais voilà que la pierre était déjà roulée. Et un ange va leur dire ceci, « Vous cherchez au mauvais endroit. Vous cherchez parmi les morts, mais il est vivant. Jésus est vivant, mes amis. » Et la résurrection, c'est vrai qu'elle bouleverse tout, elle change tout. Ma destinée a été changée parce que Jésus a triomphé de la mort. Parce qu'il est sorti vivant du sépulcre. Alors en un instant, tout a basculé. La résurrection fait vraiment la différence. Ce chapitre 15 des Corinthiens est le grand chapitre de la résurrection. C'est l'apôtre Paul qui disait dans cette même lettre, au chapitre 1er, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, Alors, je veux bien que un ait la berlue, mais c'est communicatif, hein. Parce que 500 personnes à la fois qui le voient, dont la plupart sont encore vivants, donc ils peuvent en témoigner. Et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Formidable ces paroles, croyez pas? Des choses annoncées qui se sont réalisées. Alors après cette introduction, Paul va présenter un puissant témoignage sur la résurrection de Jésus. Puis ensuite, il s'adresse à qui? Mais il s'adresse à nous. Et il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Amen. Et si nous ne connaissons pas la mort, c'est ce qui va se produire. On n'aura pas besoin de Ariane 5, Ariane 6 ou je ne sais trop quoi. On va être attiré par lui dans les airs. On va se retrouver sur de nouveaux cieux, nouvelle terre. Ça va être formidable. Ceux qui sont morts, qui nous ont devancés, hein, qui aujourd'hui sont dans le repos, eh bien, nous devancerons dans le ciel. Ils seront avant nous. Alors, avec ces quelques mots qui résonnent encore à nos oreilles, considérons quelques changements ou quelques transformations que nous apporte la résurrection de Jésus. Premièrement, la résurrection a transformé la croix et le sépulcre. Essayez de voir la croix et la tombe avant la résurrection. Il y a un avant, bien sûr, mais aussi un après. Avant sa résurrection, la croix était connue comme l'instrument de mort horrible, une mort horrible. Un bois rugueux, maculé de sang humain. Ce supplice était si horrible que les Romains interdisaient la crucifixion d'un citoyen romain. Ce n'était pas pour eux. C'était réservé aux pires des esclaves et aux ennemis de Rome. Voilà comment ils allaient mourir. Mais aujourd'hui, à cause de la résurrection de Jésus, certains portent, je dirais, la croix comme un bijou autour du cou, symbole aujourd'hui de parure, de beauté. Mais pour le monde entier, eh bien, la croix est le symbole de l'espoir. Amen. Il nous rappelle quelque chose de formidable et d'extraordinaire. C'est l'amour de Dieu. Un rappel de ce que Dieu a accompli pour nous. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, son Fils unique. Il l'a donné pour nous. Il l'a donné pour moi, mais il l'a donné aussi pour toi. Amen. Pour toi aussi, là. Il l'a donné pour chacun. Alors, qu'en est-il de la tombe? Eh bien, avant la résurrection, le sépulcre était vu comme la fin de tout. Une porte qui se ferme, c'est fini. Un mur infranchissable, il n'y a plus rien derrière. Mais à cause de sa résurrection, aujourd'hui, nous nous réjouissons tout simplement de ce qu'après la mort, eh bien, c'est là que la vie commence. Et surtout, qu'elle ne se terminera jamais. Les questions d'éternité, c'est pas extraordinaire? Eh oui, eh oui. Alors, on se demande pourquoi, finalement, nous passons tant de temps à nous tracasser, à nous inquiéter pour des choses matérielles. Quelqu'un a dit ceci. J'ai passé presque toute ma vie à chercher la marmite pleine d'or au pied de l'arc-en-ciel. Finalement, je l'ai trouvé au pied de la croix. Amen. Au pied de la croix. Formidable. Eh oui. Nous passons notre vie à lutter pour accumuler des choses qui nous semblent indispensables, mais quand nous sommes confrontés à la mort et à ce qui se passe après la mort, alors toutes ces choses nous paraissent tellement insignifiante, sans importance. Qu'importe le type de voiture qu'on conduit, la maison dans laquelle on habite, ou les vêtements que l'on porte, face à l'éternité, qu'est-ce que ces choses, mes amis? Nus, nous sommes venus ici-bas et nus, nous repartirons. Il faut le savoir, bien sûr. Alors, ça ne fait pas la différence. De ce côté de la résurrection, tout est temporaire. Emmanuel l'a souligné tout à l'heure, tout est temporaire, jusqu'à ce qu'il y ait. Eh bien, la résurrection qui nous amène vers un autre temps. La résurrection change tout. Deuxième chose, c'est que la résurrection transforme le temps. Avant la résurrection, le temps était une chose limitée. Une chose bien limitée. La Bible parle du souffle de vie que nous respirons et soudain, voilà que le souffle de vie disparaît. D'ailleurs, rien ne dit qu'au prochain souffle, nous serons encore vivants. J'espère pas. J'espère que nous serons encore vivants. Hein. Mais, eh oui, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Je vous raconterai une histoire un jour. Quand on se regarde dans une glace, après une journée de travail, on se dit, comme tu sembles vieux, tu es fatigué, épuisé. Oh, j'ai rien, une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux demain matin. Mais il y a une petite voix qui nous dit, n'y compte pas trop, demain ce sera pire. Vous comprenez? Et là, on ne peut rien y faire. Le temps passe, il nous use. Eh oui, il nous détruit un petit peu. Alors c'est plutôt décourageant, le temps passe si vite qu'on ne peut, je dirais, s'accrocher à rien. Hein. Et oui, certains cherchent l'immortalité avec la cryogénisation, je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Bon, ils en sont encore au balbutiement, mais je ne pense pas qu'ils y arrivent un jour. Hein. Alors, j'ai affirmé qu'ils n'y arriveront jamais. Parce que le seul qui nous a promis la résurrection et la vie éternelle, c'est le Seigneur. Donc il n'y a pas de souci, laissons-les. Et dépenser ce qu'ils ont à dépenser, laissons-les se fatiguer. Prions pour eux que Dieu se révèle à eux, qu'il leur montre qu'il y a tout à fait autre chose. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Hein, puisque c'est quand même, ce côté, le temps, il est bref, hein, il est limité. Eh bien, de l'autre côté, il y a Jésus, et puis il y a l'éternité. Et ça change tout le point de vue et la signification de la vie ici-bas. Je suis rentré dans l'éternité. Vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a de quoi, excusez-moi, mais baliser un peu. Hein. Quand on entend tous ces bruits de guerre, je vais en parler tout à l'heure un petit peu, mais quand on entend tout ce qui se passe ici-bas, l'incertitude qui règne, je rencontre des gens, je parle avec des personnes qui me disent, mais qu'elles ont peur. Une personne me dit, il y a quelque temps, mon épouse était présente, et elle disait, mais il faut que je vous parle, parce qu'avec tout ce qui se passe, moi j'ai peur. J'ai peur, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de que vous m'expliquiez certaines choses. Je veux savoir. Vous voyez, donc c'est réel. C'est pas une utopie, c'est pas des histoires que l'on rencontre, c'est la réalité. Quand on n'a pas d'espérance, quand on ne sait pas où on va après, quand on ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, ils le disent couramment. Hein. Personne n'est revenu nous dire ce qu'il y avait derrière. Si, il y en a un, c'est Jésus. Jésus qui est revenu de la mort. Amen. Et lui nous a dit que c'était magnifique. C'était le paradis. Alléluia. Vous avez envie du paradis ou pas? Levez la main, est-ce qu'il y a envie du paradis? Hop. Ah oui, Timothée aussi. Bon. J'étais un peu soucieux là. Non, mais. Mais oui, on a besoin de se rassurer. Et le moyen de nous rassurer, c'est Dieu qui nous le donne. Il nous donne certitude. Il a des objectifs pour notre vie, pour ta vie, mon ami. Il a des objectifs. Et il veut qu'ils arrivent à leur terme. Et lui va faire tout ce qu'il faut pour que tu puisses arriver en vainqueur. On l'a chanté tout à l'heure. Hein. Troisième chose, c'est que la résurrection le transforme la vie. Est-ce que vous entendez ce message qui vous parvient de ce monde? L'horizon est sombre. Le terrorisme crée, je dirais, une angoisse supplémentaire, comme si on n'avait pas assez. Une bataille mondiale s'est engagée contre les forces du mal. Il y a le conflit sans fin au Moyen-Orient, celui qui est en Ukraine, qui dure depuis 2 ans, et d'autres qui sont en train de se préparer. Faut pas se leurrer, hein. C'est la réalité. Il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de remède. Il y a de plus en plus de problèmes dans les foyers. Les enfants sont abusés. Quelle honte! Quelle honte! Les gens dorment dans les rues. Si vous écoutez un petit peu trop, que vous prenez les choses trop à cœur, le désespoir vous gagne. Et beaucoup nous disent, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis venu? Une jeune fille me disait, mais moi, j'ai rien demandé, je suis là. Eh oui, eh oui. Alors si notre seule espérance est celle de ce monde, c'est sûr qu'on ne va pas aller bien loin. Le message du monde est désespoir. Désespoir. C'est pas désespoir, c'est désespoir. Hein, ça se tient. Hein. Par contraste, Jésus dit, Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Autrement dit, je suis venu pour vous montrer comment vivre et être heureux. Je suis venu pour vous montrer tout simplement comment vivre heureux et vous apporter l'espérance, la joie, la paix, l'amour. Je suis venu tout simplement vous donner une raison de vivre. Moi, j'ai ma raison de vivre. Je ne sais pas si vous l'avez. Moi, c'est de faire connaître Jésus. C'est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le message de l'Évangile, qui signifie bonne nouvelle, vous le savez. En tout cas, c'est un message d'espoir auquel il faut s'accrocher. Parce que avec, même si la vie est tourmentée par la douleur, votre vie, même si c'est la solitude, la peine, si c'est les difficultés, mais vous continuerez à avancer. Vous continuerez à avancer, bien sûr. Vous aurez la force. Parce que c'est Jésus qui va vous communiquer la force, la puissance, grâce à sa résurrection, parce qu'il est vivant. Amen. Il est vivant. La résurrection nous fait voir, entrevoir également qu'il y a autre chose. La résurrection, et c'est le quatrième point, transforme la mort. Avant la résurrection, la mort, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la fin. Nous ne pouvions que pleurer, comme ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'espérance. Et on assiste à des scènes vraiment dramatiques, où les gens, parce qu'ils n'ont pas d'espérance, ont entendu quantité de fois. Tu es mort, maintenant j'ai plus personne. Alors qu'il y a des enfants à côté qui disent « Maman, on est là, nous. On est là, nous aussi. Oh !» Et oui, mais le chagrin est là aussi. Et il est plus fort que tout. Alors après la résurrection, la mort d'un être cher nous attriste, mais nous savons que ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire, c'est pour un temps. Il y a la promesse de l'Écriture. Elle est là, c'est que si Jésus est vivant, alors nous aussi, nous vivrons pour l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'un jour, nous avons accepté de nous reconnaître pour ceux que nous étions. J'étais un pécheur. J'étais un individu condamné par mon vécu, parce que j'étais. Le roi David le dira lui-même, je suis né dans l'iniquité, j'ai été enfanté dans le péché. C'est vrai. L'apôtre Paul le dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché, tous ont privé de la grâce de Dieu ou de la gloire de Dieu. C'est réel. C'est comme ça. Heureusement qu'il y a eu ce qui s'est produit à la croix, où Jésus est venu. Il a choisi de lui, le juste, le pur, le saint, de se charger de nos péchés sur ce bois infâme. Il a choisi de laisser et de livrer sa vie en sacrifice pour que nous puissions vivre, que nous puissions être reçus de Dieu. Alors, nos péchés étant pardonnés et lavés par le sang de Jésus, nous avons la promesse de la vie éternelle. Et ça, rien ni personne ne peut nous l'enlever. Le concept même de la mort est complètement transformé. Permettez une histoire, mais qui nous parle beaucoup. Karl était un homme très riche qui possédait une grande propriété. Un de ses passe-temps favoris était de monter à cheval à travers sa vallée, elle lui appartenait, de regarder tout ce qu'il possédait, de se féliciter sur sa grande richesse. Tu es un homme formidable, Karl. Tu es extraordinaire. Regarde ce que tu as fait. Tu as agrandi tes biens. Tu as une propriété magnifique. Un jour, Karl était monté sur une colline, aperçu de loin un de ses commis fermiers qu'il est allé rejoindre. C'était un vieil homme du nom de Hans. C'était l'heure du déjeuner. Hans avait mis une petite table à l'ombre d'un arbre, un grand arbre qui était là. Et il se préparait à manger. Mais avant de manger, voilà qu'il a incliné sa tête, il a joint les mains et il a fait une prière. Une prière justement pour remercier Dieu pour sa nourriture. Alors Karl, cet homme riche, a regardé l'homme en prière et puis il a jeté un coup d'œil sur la table, ce qu'il y avait, parce qu'il y avait une prière magnifique. Merci pour ce que tu m'as donné, c'est un repas formidable Seigneur. Il a gardé son repas, puis c'était un croûton de pain et un morceau de fromage. Ouais. Alors il y a eu un ricanement de la part de Karl. Il a dit, si c'est tout ce que j'avais à manger, moi je ne prendrais même pas la peine de prier pour si peu. Eh oui. Alors Hans a répondu humblement, pour moi c'est suffisant, je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il est pourvu. Étonné par cette réponse de la part du vieil homme, Karl a fait faire demi-tour à son cheval, il se prépare à partir, voilà. Mais avant qu'il ne puisse partir, le vieux Hans lui a dit ceci. « Attendez une minute. J'ai besoin de vous dire quelque chose. J'ai fait un rêve hier soir. Dans mon rêve, j'ai vu une scène magnifique. Et j'ai alors entendu une voix qui disait « Ce soir, l'homme le plus riche de la vallée mourra. Ce soir, l'homme le plus riche de la vallée mourra. » Karl a dit « C'est une sottise !» Il était gêné par cette parole. Alors il s'en est retourné chez lui. Mais tout en chevauchant, les paroles de Hans le tracassaient. Cette nuit, l'homme le plus riche de la vallée mourra. Certainement qu'il devait calculer le poids de la richesse des autres et se dire, c'est pas moi, pas possible. Pas possible. Alors jusqu'alors, pour lui, il n'y avait pas de souci, tout allait bien, il était heureux, il était fier, il était content, il vivait bien. Voilà que maintenant qu'il rentrait chez lui, après avoir entendu ses paroles, il commence à sentir des douleurs. Oh, ça me serre là, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oui ! Alors, il est arrivé chez lui, ça le travaillait, il appelait son docteur. Eh oui. Le docteur lui a dit, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je vous ai vu il n'y a pas longtemps, tranquillisez-vous. Bon, allez, pour vous rassurer, je viendrai vous examiner. Le médecin est arrivé, il l'a examiné, il a dit, Karl, vous êtes aussi fort qu'un cheval, il n'y a aucune raison pour que vous mouriez ce soir. Alors Karl a dit, j'étais bien bête finalement, hein, de prêter attention à ce rêve de ce vieil homme là, il voulait plus l'appeler comme il l'appelait avant, hein, disant que l'homme le plus riche de la vallée allait mourir. Ah, je voulais simplement être certain. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Rassuré, il a passé la soirée, puis il s'est couché, il s'est mis au lit. Et voilà que le matin suivant, on a frappé à sa porte. Et le messager a dit, Karl, le vieux Hans, il est mort hier soir. Il est mort hier soir. Est-ce que pour vous, ça vous paraît plausible, l'homme le plus riche de la vallée? Ce n'était pas celui qui avait de grands biens, mais c'était celui qui avait Jésus dans son cœur. Celui qui a moqué son Dieu, qui le remerciait pour un bout de fromage et pour un morceau de pain. Celui qui savait être reconnaissant à l'égard de celui qui lui avait déjà assuré l'éternité. Alors oui, c'était vrai. L'homme le plus riche de la vallée était bien mort la veille au soir. Amen. C'était Hans. Eh oui. Voyez, comme montre la parole de Dieu, nos valeurs ne sont pas les valeurs de Dieu. Se faire pauvre pour être riche, mais riche des choses qui sont en haut. Amen. Désirer mourir à soi-même pour vivre pour l'éternité. Je me suis repenti de mes péchés, je le disais. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est passer par là. C'est accepter de se reconnaître comme un être perdu, pécheur. J'y suis passé, je peux vous dire que j'ai pleuré. J'étais un peu moins fier. Il m'a fallu descendre de mon piédestal et venir à la réalité. Si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais? Maintenant, je sais, attention. Hein. Mais avant, je ne savais pas. Et quand je me suis retrouvé face à des puissances mauvaises, à des personnes dans un état de possession terrible, j'ai dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? Le monde invisible, il existe. Mais Jésus en a triomphé. Amen. Et je sais aujourd'hui que Jésus est capable de relever un corps malade, de le guérir, de le soigner. Je connais un collègue qui est né aveugle. Il est né aveugle. Aujourd'hui, il voit, il est pasteur. Et depuis quelques dizaines d'années, il est dans les Pyrénées, dans la région Pyrénées, Midi-Pyrénées. Je dirais qui c'est. Mais des choses comme ça, c'est formidable. Moi, j'ai vu une enfant qui était sourde, au cours d'une mission, être totalement guérie, alors que sa maman avait inscrit sa fille dans une maison pour apprendre les signes, le langage des signes. Fini. Le Seigneur l'a totalement guéri. Emmanuel pourrait dire pareil. Des témoignages, nous en avons, de guérison, de la puissance de Dieu à l'œuvre. Alors, vous voyez, la résurrection, elle fait toute la différence. Avant, les choses paraissaient si importantes, bien sûr. Maintenant, elles sont devenues insignifiantes. Ces choses qui, vous savez, peuvent nous détruire, nous retenir, nous freiner, nous faire souffrir. Avant, le temps était si limité, mais maintenant, il y a toute l'éternité. Amen. Il y a toute l'éternité. Avant, la vie était pleine de désespoir, mais maintenant, elle a un but et une signification extraordinaire. La nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Alléluia. Un homme âgé, enseignant, très érudit dans la parole de Dieu, dira, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Peut-être que sa maman n'était plus de ce monde. Donc pour lui, c'était... Le Seigneur l'a rassuré, il lui a dit, tu sais, le vent, tu l'entends, hein, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de la nouvelle naissance, du miracle que Dieu produit. Faire naître un homme, une femme, lui donner une vie nouvelle. Amen. Avant, la mort, c'était la fin, mais maintenant, c'est le commencement. Et j'ai l'éternité devant moi. N'aimeriez-vous pas avoir dans votre cœur ce même sentiment de bonheur, de sécurité, d'espérance? Je suis né de nouveau. J'ai été pardonné de mes péchés. Jésus est devenu mon sauveur. Et maintenant, je vis pour lui. Amen. Alors aujourd'hui, Jésus appelle. Hein, il faut répondre. Il faut lui ouvrir son cœur. Il y a un don spirituel. Il faut répondre, tout simplement. Hein. Si c'est la morosité, vous voulez sortir de là? Votre vie n'a pas d'avenir? Tournez regard vers Jésus. Ouvrez votre cœur à la parole de Dieu. Parce que tout peut changer en un instant. L'éternité, c'est pour quand? Un jour, il y a un homme qui me dit, c'est un boulanger. Je visitais sa femme, et lui me disait, pasteur, je vous aime bien. Il m'aimait bien, c'est vrai. Bon, mais c'est pas ce qu'on veut, nous. Hein. Ce qu'on veut, c'est qu'il aime bien le Seigneur. Hein. Il aime beaucoup le Seigneur. Il me disait, vous savez, pasteur, j'ai pas le temps. Alors aujourd'hui, j'ai pas le temps. Mais je vous promets une chose, et attention aux promesses, je vous promets une chose, c'est que lorsque je serai à la retraite, je prendrai tout mon temps pour m'occuper de ces choses-là. Sa femme s'est levée un matin pour aller ouvrir la boulangerie. Le four n'était pas allumé. Eh oui, il était mort. Il s'est pendu. Oui, mes amis. Il n'y a pas d'espoir quand on n'a pas le Seigneur. Il n'y a pas d'espérance. C'est drame sur drame. Et quand on a Jésus, on a envie de vivre. Même s'il y a un contretemps, même s'il y a des mauvaises nouvelles. On n'a pas envie de mourir, mais on veut vivre. Il aurait dû m'écouter quand je lui parlais. Je ne suis pas là pour jeter la pierre. Hein. Mais mes amis, il ne faut pas laisser passer l'occasion. Le diable dira toujours plus tard, demain. Tu n'as pas tout compris, attends. Mais le Seigneur lui dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut faire le choix. C'est au moment où on entend. Il dit, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Pour la plupart, je ne vous connais pas. Mais je sais que Dieu vous connaît. Et ce qu'il désire, c'est le meilleur pour vous. Ce qu'il désire, c'est que vous viviez c'est que vous entriez déjà dans l'éternité. C'est une autre dimension. Et on ne redoute pas l'avenir. Au contraire, on dit, Seigneur, hâte le temps. Parce que j'ai encore des bonnes choses à vivre et je veux faire des choses magnifiques avec toi. Quelle différence la résurrection, vous ne croyez pas? Si Jésus était resté dans le tombeau, tout ça, on ne le vivrait pas. Aujourd'hui, on le vit. Parce que Jésus a triomphé de la mort. On ferme nos yeux quelques instants. Amen. Seigneur, que ta parole est bonne. Elle est bonne pour nos âmes. Elle est bonne pour notre raisonnement, pour notre cœur. C'est toi qui nous donnes l'espérance, l'assurance. C'est toi, Seigneur, qui es seul capable de nous transformer, de faire de quelqu'un, Seigneur, d'apeuré quelqu'un qui a des certitudes, de faire d'un jaloux quelqu'un de conciliant, de faire d'un malhonnête quelqu'un d'honnête. Seigneur, c'est toi qui transformes les vies, les mentalités. C'est toi, Seigneur, qui nous donne l'espérance. Merci de me l'avoir communiqué et de l'avoir communiqué à tes enfants. Merci de trouver ce soir un cœur ouvert. Seigneur, un cœur, un homme, une femme qui a soif, qui a besoin de trouver auprès de toi le refuge, la vie. Seigneur, merci de lui avoir parlé, qu'il puisse y avoir dans son cœur une décision. J'aimerais que nous restions les yeux fermés. C'est un temps particulier. Je disais ne pas remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Alors oui, je vais le faire. J'aimerais vous demander tout simplement à vous qui sentez que c'est le temps de Dieu, vous qui êtes interpellés, peut-être vous n'avez pas tout compris, mais vous dites, moi j'aimerais vivre en nouveauté de vie, faire vivre autre chose que ce que j'ai vécu jusqu'à présent. J'aimerais que mon passé soit complètement effacé, que ce qui pèse dans ma conscience disparaisse. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Alors Dieu aime cette prière. J'aimerais que vous puissiez tout simplement faire un geste. Moi, je l'ai fait un jour. Je n'ai pas tout compris. Il y a bien des choses qui m'échappaient encore, mais quand cet homme de Dieu a prié, il a dit, quelqu'un a besoin de Jésus dans ce lieu. Il a dit, ami, toi qui as besoin de Jésus, lève ta main. J'ai levé ma main. Gloire à Dieu. Baissez-la, Dieu vous voit. Oui, baissez-la. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, baissez-la, Dieu vous a vu aussi. Il est capable d'effacer votre passé, de faire de vous un être nouveau. Il veut le faire. Ami, veux-tu lever ta main? C'est le temps de Dieu pour toi. Gloire à Dieu. Dieu vous a vu. Dieu vous a vu aussi. J'aimerais prier. Réfléchis encore, hein, toi qui n'as pas encore fait ce geste, ce pas de la foi. Seigneur te cherche. Merci pour ta parole. Merci de la faire résonner profondément dans les cœurs ce soir. Et merci pour ces amis qui ont choisi de lever leurs mains en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux triompher de ma nature. Je ne veux plus être la même personne, mais je veux que tu me fasses naître de nouveau. Je veux que tu me relèves, que tu me guérisses intérieurement de ce passé. Je veux en être débarrassé. Seigneur, merci. Merci de prendre soin de chacun et de chacune, de répondre aux prières qui se sont adressées en ce moment-là, dans ces cœurs, ces prières que je n'entends pas, mais que toi, tu entends, Seigneur. Parce que c'est toi qui lis dans les cœurs et dans les consciences. Merci pour ce que tu fais maintenant et à toi la gloire. Amen. Amen.